Et on va faire un point sur l'information avec le journal d'Antoine Maretz. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Une nouvelle attaque au couteau sur le territoire français. Ça s'est passé ce matin à Nice, à la basilique Notre-Dame. 3 personnes sont mortes. Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête. Nous consacrerons une grande partie de ce journal à ce nouveau drame qui frappe le pays, notamment avec notre invitée Anne Giudicelli. Elle est directrice et fondatrice de Terrorisque.
Nous évoquerons également dans ce journal le reconfinement en France, annoncé hier soir par Emmanuel Macron. Il va entrer en vigueur à partir de ce soir pour une durée allant au moins jusqu'au 1er décembre. Il y aura malgré tout des différences par rapport au printemps dernier. Les écoles vont rester ouvertes, les maisons de retraite pourront être visitées. Ce matin, Jean Castex s'est exprimé devant les députés sur ce reconfinement. Il a défendu la politique sanitaire du gouvernement. Enfin, dans la deuxième partie de la Grande Table, nous parlerons justement avec notre invité, l'économiste Éloi Laurent, de cet équilibre entre santé et économie. Dans le reste de votre journal, Antoine Maretz.
Eh bien, nous nous intéresserons également à l'Angleterre, où près de 100 000 personnes sont contaminées chaque jour par le Covid. Les scientifiques expliquent que le nombre d'infections double tous les 9 jours désormais dans le pays. Selon eux, les règles en vigueur sont insuffisantes pour endiguer l'épidémie. La France, une nouvelle fois touchée par ce qui semble être une attaque terroriste. Ce matin, aux alentours de 9h, un homme a pénétré dans la basilique Notre-Dame de Nice, armé d'un couteau. 2 personnes ont été tuées, une troisième blessée a finalement succombé à ses blessures. Le suspect a été interpellé par la police, il a été grièvement blessé. Emmanuel Macron doit se rendre sur les lieux dans les minutes qui viennent. Bonjour Florence Turm.
Bonjour.
Le parquet national antiterroriste a été saisi de l'enquête. Que sait-on de cette attaque ?
On ne connaît pas encore précisément les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette attaque. Les habitants du quartier Notre-Dame, en plein centre-ville de Nice, ont entendu des coups de feu aux alentours de 9h. Coups de feu tirés par les policiers pour stopper le meurtrier qui s'est introduit dans la basilique armé d'un couteau. Il s'en est pris à plusieurs personnes, une femme d'environ 70 ans et le sacristain qu'il va tenter d'égorger, voire de décapiter. Tous les deux sont morts, tout comme une troisième personne, une femme également qui va réussir à prendre la fuite, à se réfugier dans un bar voisin, mais elle décédera des suites de ses blessures. C'est un riverain qui a donné l'alerte. Les policiers municipaux sont immédiatement intervenus, suivis par leurs collègues de la police nationale, à l'intérieur de la basilique pour neutraliser l'assaillant. Et le maire de Nice, Christian Estrosi, indique que ce dernier, un jeune homme de 25 ans environ, blessé et menotté, ne cessait de proférer « Allahu Akbar ». Il a été hospitalisé dans un état grave. Le parquet national antiterroriste, vous le disiez, s'est aussitôt saisi pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. L'enquête confiée au service de la police judiciaire et de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, il va s'agir en premier lieu d'identifier l'auteur des faits, de déterminer s'il a agi seul ou non. Il est encore trop tôt pour le dire. À ce stade, aucune revendication ne semble avoir été formulée, comme cela avait été le cas très vite sur les réseaux sociaux lors de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur décapité il y a moins de 15 jours à Conflans-Sainte-Honorine. À Nice, le mode opératoire fait aussi tragiquement penser à celui employé par le terroriste tchétchène. Nice, déjà lourdement frappé par ailleurs par le terrorisme. Autour de la basilique, le périmètre a été bouclé. Les forces de l'ordre ont également lancé des opérations de déminage afin de sécuriser complètement la zone.
Merci à vous Florence Turm. Cette nouvelle attaque ravive des souvenirs douloureux à Nice. Le 14 juillet 2016, la ville avait été la cible d'une attaque terroriste. Terroriste particulièrement meurtrière. Un camion bélier avait foncé sur la foule, faisant 86 morts et plus de 450 blessés. Le maire de Nice, vous en parliez Florence, s'est immédiatement rendu à proximité de la basilique. Christian Estrosi a improvisé une conférence de presse pendant laquelle il a appelé à, je cite, « anéantir l'islamo-fascisme ».
Mes premiers mots sont d'abord des mots de compassion à l'égard des proches, des familles des victimes et de tous ceux de la communauté paroissiale de la basilique Notre-Dame de Nice et de tous les Niçois qui sont sous le choc de l'émotion. Je dois dire que Nice, comme la France et peut-être plus que d'autres lieux de France, aujourd'hui est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il ne fait aucun doute que l'auteur de ces actes qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous à la Ouagbar alors qu'il était médicalisé sur place, quel était le sens de son geste. Sa détermination, trop c'est trop, et il est temps maintenant que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire.
Et ça n'est pas la première fois qu'une attaque a lieu dans un culte catholique en France. On se souvient de l'assassinat du père Hamel en juillet 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray. Le glaive a sonné à 15h aujourd'hui dans les églises de France, a annoncé la conférence des évêques de France. Je vous propose d'écouter les réactions de Vincent Desmonts chez nos confrères de France Info. Il est justement le porte-parole adjoint de cette conférence des évêques de France.
C'est indescriptible comme acte. On comprend que c'est un symbole qui a été attaqué. On comprend aussi, d'ailleurs, à travers cette attaque, que c'est notre pays entier qui est visé. On le sait, les chrétiens, pour les terroristes qui nous attaquent, sont une représentation de l'Occident. Et donc, je pense que c'est tout notre pays qui aujourd'hui est touché à travers cette attaque, de la même manière qu'il avait été touché lors de celle à l'encontre de Samuel Paty. Je pense que nous sommes vraiment dans une sidération incroyable, des personnes innocentes qui sont là sans doute pour prier dans une église et qui y trouvent la mort. Enfin, tout cela est absolument incohérent. Enfin, on ne tue pas au nom de Dieu, quelle que soit la foi que nous avons.
Invité de ce journal, Anne Giudicelli, bonjour madame.
Oui, bonjour.
Vous êtes directrice et fondatrice de Terrorisque. Une basilique attaquée, un symbole attaqué selon Vincent Desmonts, un symbole de l'Occident. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Écoutez, je pense que au-delà il y a le choix du site qui est effectivement une institution religieuse, en l'occurrence catholique. Ça semble relever, en attendant bien sûr les éléments d'investigation, une action de représailles du point de vue de potentiel de l'auteur, c'est-à-dire que dans le contexte actuel où on est, où il y a beaucoup de critiques de pays musulmans, d'une opinion musulmane qui peut se trouver heurtée par à la fois la republication des caricatures et l'approche gouvernementale concernant l'islamisme militant en France, je pense que ça relève d'une logique de représailles contre en représailles aux attaques contre l'islam, la motivation, la justification, c'est de s'en prendre à un symbole religieux dit occidental.
Question de Mathieu Laurent.
Bonjour madame. Vous dites représailles, mais la récurrence des actes, la quasi-concomitance des actes visant la France, je pense à Djeddah, parce qu'à Djeddah, il y a eu un garde en poste consulat français qui était agressé. Ma question, la première, est la suivante. Faut-il s'attarder sur le terrain de Nice pour comprendre ou bien sur la géopolitique, sur les tensions diplomatiques ?
Mais bien sûr, c'est-à-dire que le terrorisme, il n'est jamais cerné par des frontières. C'est une approche, une idéologie qui est de nature globale et donc géopolitique. Et là, on a une concentration de facteurs à la fois géopolitiques, de réactions qu'il y a eu au niveau gouvernemental de certains États et aussi de certaines organisations et une partie de l'opinion musulmane, de griefs à l'encontre de la France parce que la position de la France n'est pas comprise. Et d'une part, la republication des caricatures de Charlie Hebdo. D'autre part, l'approche, comme je disais tout à l'heure, en matière d'islamisme radical et d'islamisme militant. Donc, tout ça converge, tout ça crée un contexte, évidemment, qui est aujourd'hui, assez inquiétant, puisqu'on a... La France est désignée comme la cible.
Est-ce que la position de la France est tenable ?
Ah, ça c'est moi j'en appelle vraiment à l'apaisement et au dialogue au niveau international. On est obligé de tenir compte du monde dans lequel nous sommes et ce n'est pas en faisant de la surenchère dans ce qu'a dit par exemple Monsieur Estrosi de faire sauter le verrou entre guillemets
anéantir l'islamo-fascisme, c'est l'expression.
Non, c'est pas ce que j'ai retenu, parce que celle-là.
Qu'avez-vous retenu au juste alors ?
Sur le droit à la paix. le droit de paix. C'est-à-dire
ça veut dire aller vers des règles d'exception ou je me trompe ?
Voilà, c'est ça en gros qu'il est en train de dire. Donc c'est un nouveau verrou qui tente d'être sauté, en tout cas dans le discours politique actuel. Et ce type de discours qui monte en puissance aujourd'hui contribue à électriser et à nous emmener dans une spirale, si vous voulez, c'est cette spirale qui n'est pas tenable.
Mais comment sortir justement de cette spirale, Anne Dudicelli ? Comment en sortir ?
C'est toute la question. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau diplomatique. Il y a une pédagogie à avoir pour expliquer qu'est-ce que c'est que notre laïcité, qu'est-ce qu'elle n'exclut pas les religions, que ce n'est pas soit une façon de couper l'herbe sous le pied de l'extrême droite comme c'est perçu dans les opinions musulmanes et les États musulmans, et également que ce n'est pas contre l'islam. C'est ça qu'il faut à tout prix, faire comprendre avec une action intense de pédagogie, de diplomatique. Déjà à ce niveau-là, on pourrait contribuer à apaiser les tensions.
Pédagogie diplomatique, pédagogie de la géopolitique, celle-là même incarnée, en tout cas développée et défendue par la France. Au mois d'août dernier, au micro de nos confrères d'Europe 1, vous déclariez, Anne Dudicelli, que l'opération Barkhane n'avait pas réglé le problème de fond. C'est quoi le problème de fond et comment résoudre l'équation complexe dont vous venez de dérouler quelques-unes des inconnues ?
Écoutez, au fond, dans tout ça, c'est quoi le point commun ? C'est qu'on a des positions, malgré le temps qui passe, malgré les événements qui se déroulent, on reste globalement sur des positions de répression ou versus terrain fond étranger, donc opération militaire, donc sécuritaire. On a une approche globalement sécuritaire sur des problématiques qui sont complexes et qui englobent des données à la fois de bonne gouvernance, quelle relation avec quels États, d'aide au développement, est-ce que l'argent qu'on injecte aide vraiment les bons bénéficiaires, si vous voulez. Donc il y a une approche globale, ça fait des années qu'on le sait, c'est des constats qu'on aurait pu faire, il y a quelques années. Mais il y a définitivement une absence de volonté de remédier à ces solutions et de remettre en question des vieilles techniques qui sont uniquement de réagir après et de réagir toujours par la force et non d'essayer d'anticiper et de en tout cas de pas créer les raisons pour lesquelles on va générer des réactions qui étaient largement prévisibles. Je pense évidemment à la republication des caricatures. On me le reproche, mais c'est clair.
Mais que vous reproche-t-on juste que vous insistiez sur cette dimension, cet acte ?
Non, c'est-à-dire que c'est très emblématique de notre façon de fonctionner. C'est-à-dire que on pense, on est franco-centré. Et dans le sens où faut-il être attaqué pour défendre nos valeurs ? Je pense qu'on peut les défendre autrement que par une espèce de d'obstination à finalement jouer le jeu de ceux qui sont les plus radicaux. Là, on a donné du grain à moudre. C'est un exemple d'approche oui. qu'on a qui ne sont pas génératrices
d'apaisement, mais plutôt que de surenchérir. Voilà. C'est ça que vous dites.
Ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Merci.
C'est du pragmatisme.
Merci à vous. Merci à vous, Anne Dudicelli. Je précise que le plan Vigipirate est porté au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire national et qu'un conseil de défense aura lieu demain matin. C'est ce que vient d'affirmer Jean Castex. Cette attaque a eu lieu au lendemain de l'annonce du reconfinement en France, annoncé hier soir par Emmanuel Macron. Il va entrer en vigueur à partir de ce soir pour une durée allant au moins jusqu'au 1er décembre. Il aura malgré tout des différences par rapport à mars dernier. Les écoles vont rester ouvertes, les maisons de retraite pourront être visitées. Ce matin, Jean Castex s'est exprimé devant les députés sur ce reconfinement. Il a défendu la politique sanitaire du gouvernement, annoncé 20 milliards d'euros de soutien à l'économie aux entreprises touchées par les conséquences des nouvelles mesures. le masque obligatoire dès l'école primaire. Mais en pleine séance, la nouvelle est tombée. Nice était une nouvelle fois attaquée. Et du coup, la séance a été perturbée, Laura Dulieu.
Oui, tout avait normalement commencé. Jean Castex a défendu l'action du gouvernement dans la crise sanitaire. L'intervention du Premier ministre se termine. Il quitte la tribune, puis revient. Échange quelques mots avec le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui prend la parole.
Nous venons d'apprendre, à l'instant pendant que s'exprimait le Premier ministre, qu'un attentat d'une gravité extrême s'est produit à Nice. Je vous demande, dans ces circonstances tragiques, d'observer une minute de silence en solidarité à l'égard de la ou des victimes, évidemment de l'ensemble de ses proches.
La séance est suspendue quelques minutes, puis le Premier ministre revient à la tribune.
Je vais donc être tenu, compte tenu des circonstances exceptionnelles, de me rendre place Beauvau à la cellule interministérielle de crise. Et je vous demande, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir le comprendre.
Résultat, un débat complètement parasité par cet attentat sorti pendant la suspension de séance. Marine Le Pen s'est exprimée.
Nous n'avons pas pris les mesures qui auraient dû être prises. Nous n'avons aucune raison, encore une fois, de rester à compter les morts comme nous le faisons depuis trop d'années.
Et de retour en séance, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste, appelle, elle, à suspendre le débat.
Monsieur le Président, comme je vous l'ai demandé, je pense que nous aurions dû interrompre ce débat. La République continue, la démocratie aussi, mais le respect que nous devons à nos concitoyens, ce respect aurait dû nous imposer de reporter notre débat.
Une hypothèse immédiatement écartée par Richard Ferrand juste après.
J'ai pour ma part la conviction profonde que précisément, parce que les terroristes attaquent nos compatriotes, attaquent notre démocratie, notre République, que c'est l'honneur de l'Assemblée nationale de continuer à faire vivre notre République.
Et le débat a donc continué. Jean Castex est revenu à l'Assemblée pour assister au vote. Vote auquel le groupe LR ne prendra pas part, a annoncé pour son président Damien Abad.
Merci à vous Laura Dulieu. Sachez qu'un homme menaçant, armé d'une arme de poing, a été tué par les forces de l'ordre à Avignon ce matin. Les faits se sont produits dans le quartier de Montfavet. Les policiers ont tout d'abord tenté de neutraliser l'homme avec leur LBD. L'homme est resté debout et les forces de l'ordre ont donc fait usage de leur arme de service. La police judiciaire est saisie de l'enquête et le procureur de la République d'Avignon se rend sur place. À ce stade, la piste terroriste n'est pas privilégiée. Et puis un Saoudien a été arrêté après avoir blessé avec un couteau un vigile du consulat français dans la ville de Jeddah, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. C'est ce qu'ont indiqué les médias officiels saoudiens et l'ambassade française. L'assaillant a immédiatement été arrêté par les forces de sécurité saoudiennes après l'attaque. Le vigile a été emmené à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Nous appelons nos compatriotes en Arabie Saoudite à faire preuve d'une vigilance maximale, a écrit l'ambassade française dans un communiqué. Retour au sujet du Covid, avec les villes de Roubaix et Tourcoing qui se débattent avec un taux d'attaque du Covid trois fois supérieur à la moyenne. À Tourcoing, par exemple, où se trouve l'hôpital Gustave Dron, on compte plus de 950 malades pour 100 000 habitants. Et pourtant, estime le docteur Olivier Robineau, spécialiste des maladies infectieuses, avec le confinement, les mentalités vont devoir évoluer.
Il faut travailler sur la prise de conscience de la population, parce qu'il y a énormément de voix sur les réseaux sociaux, etc., qui disent que le virus a muté, que c'est la température, etc. Non, quand on est à ce niveau-là d'épidémie, la chose qui dirige l'épidémie, c'est le comportement, c'est le contact entre les gens. Et donc, pour réussir à la contrôler sur le long terme, il va falloir réussir à faire en sorte que les gens qui sont en contact avec quelqu'un qui est positif, eh bien, puissent être dépistés et isolés rapidement. Et donc, il va vraiment falloir changer l'a priori qu'ont les gens sur ce qu'on a appelé le contact tracing, qui jusqu'à présent a été un échec. Il faut vraiment que les gens acceptent qu'il y ait une forme de surveillance des contacts qui reste en fait très minime et anonyme, mais c'est extrêmement important de suivre des méthodes de surveillance qui vont nous empêcher de repartir dans une situation catastrophique.
L'infectiologue Olivier Robineau, micro de Tara Schlegel. Dans le service des maladies infectieuses où travaille ce médecin, sur 32 lits, il y a 25 patients Covid. Pas un mot pour le monde de la culture dans l'allocution du chef de l'État hier soir. Pas un mot pour les cinémas, les théâtres, les musées ou les librairies qui s'étaient adaptés depuis des mois aux nouvelles restrictions et qui ferment de nouveau. Un sentiment de désespoir pour Nicolas Dubourg, président du Syndéac, le syndicat des entreprises artistiques et culturelles. Pour lui, le secteur de la culture est un secteur d'intérêt général qui ne doit pas être mis de côté, mais qui doit au contraire continuer à travailler au service de la population dans cette période historique.
tous les mots qu'on entend depuis hier, c'est sidération. La sidération, c'est quoi? C'est le silence, en fait. Et nous, on a besoin de rompre le silence, on a besoin que ce soit d'autres que le chef de l'État qui parle, on a besoin que tous les Français s'expriment pour expliquer ce qu'ils sont en train de vivre, de ressentir, parce que sinon, on sera dans une situation réellement explosive. On voit par exemple que dans les années 30, au moment où la crise était la plus forte aux États-Unis, la crise économique, le président Roosevelt avait lancé ce programme du New Deal qui comportait un grand programme culturel. Les artistes, des photographes, des cinéastes, des auteurs ont écrit énormément sur les conditions de vie des travailleurs, de ceux qui avaient tout perdu et ont permis de documenter finalement hein, ce moment-là. Et nous, on pense que le secteur culturel d'aujourd'hui doit être vraiment mobilisé aux côtés de la société. On n'est pas un secteur à part. On doit être mobilisé aux côtés de la société pour travailler avec ceux qui ont les capacités de construire les mots MOTS, pour analyser les mots MAUX. C'est ça l'enjeu, en fait, aujourd'hui. Aussi bien les professeurs sont là pour transmettre des connaissances, autant les artistes sont là pour faire émerger, en fait, le nouveau vocabulaire qui permettra de comprendre ce qu'on est en train de traverser. Et c'est pour ça qu'il nous faut un service public de la culture et qui doit être actif en ce moment.
Je vous le disais il y a quelques minutes, les écoles vont rester ouvertes contrairement au printemps dernier. En revanche, les établissements d'enseignement supérieur vont fermer. Les universités françaises passent aux cours à distance. Ça veut dire que dès demain, les cours en amphithéâtre ou en TD se passeront via écran interposé pendant au moins un mois. De leur côté, certaines universités françaises avaient déjà préparé un éventuel reconfinement et donc un passage en télétravail, Cédric Hermel.
Et c'est notamment le cas des universités de Paris-Saclay et de Lorraine avec des formations dès le début de l'année pour les professeurs et les élèves aux cours en visioconférence. Même situation à La Rochelle en Charente-Maritime, mais cette fois seulement pour les professeurs. Bref, plusieurs facs françaises ont essayé d'anticiper un éventuel reconfinement, celui annoncé hier par Emmanuel Macron. D'autres établissements se sont vus imposer d'autres décisions, notamment la réduction de la jauge en présentiel de moitié, c'est le cas à l'université de Bourgogne à Dijon lors du passage en zone d'alerte renforcée, mais ça n'a pas suffi et on revient donc à une situation similaire à celle du printemps dernier, pas forcément du goût de tout le monde. Olivier Labou, vice-président de la conférence des présidents d'université, comprend ce reconfinement mais l'inquiète également, surtout à cause du risque de fracture numérique pour les étudiants qui n'ont pas accès à Internet, risque qui peut entraîner une augmentation de l'absentéisme. Selon lui, même discours à l'UNEF et à la FAGE, deux des principaux syndicats étudiants. Ils sont aussi anxieux du risque de fracture numérique, mais aussi de l'augmentation de la précarité pour certains étudiants. Professeurs, élèves et syndicats attendent maintenant plusieurs précisions, notamment sur l'organisation des partiels prévus dans deux mois. Olivier Labou espère qu'ils se passeront en présentiel sur un temps plus long. Réponse sur ce point et sur d'autres ce soir avec une conférence de presse de Jean Castex, le Premier ministre, et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.
Merci à vous, Cédric Hermel. Et puis on va aller en Angleterre où près de 100 000 personnes sont contaminées chaque jour par le Covid. C'est l'une des conclusions du Collège impérial de Londres dans une étude publiée aujourd'hui. Les scientifiques expliquent que le nombre d'infections double tous les 9 jours désormais dans le pays. Selon les auteurs, les règles en vigueur sont insuffisantes pour endiguer l'épidémie. Correspondance à Londres de Richard Place.
Il n'y a aucun projet pour l'heure de confinement général. C'est la réponse d'un ministre ce matin sur le plateau de la BBC. Pourtant, les experts du Collège impérial de Londres pointent une propagation galopante. Le virus est surtout présent dans le nord de l'Angleterre, mais il se propage désormais encore plus vite dans le sud. Mais le gouvernement tient sa ligne de restriction adaptée selon le taux d'infection, pour préserver l'économie. D'ailleurs, le Daily Mail barre aujourd'hui sa une de ce titre « Boris ne fait pas ça ». En référence au confinement décrété par la France et l'Allemagne, le tabloïd supplie son Premier ministre de ne pas céder à cette tentation. Et dans ses pages intérieures, il donne la parole à des patrons, des députés et même des médecins qui affirment que les dégâts d'un deuxième confinement cette année seraient terribles. Boris Johnson a toujours dit qu'il était réfractaire à cette idée, mais lors de l'annonce des dernières mesures, il avait aussi précisé que si ça ne fonctionnait pas, le confinement serait alors la seule option.
Et puis je vous rappelle l'information principale de ce journal ce matin aux alentours de 9h. Un homme a pénétré dans la basilique Notre-Dame de Nice armé d'un couteau. Deux personnes ont été tuées, une troisième blessée a finalement succombé à ses blessures. Le suspect a été interpellé par la police et le parquet national antiterroriste a été saisi. Cet après-midi, temps couvert et pluvieux sur un quart nord-est, ensoleillé sur le reste du pays. Température stable, 11 degrés à Belfort, 15 à Paris, 21 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Julien Loquet. Prochain journal à 18h avec Aurélie Kiefer.